Et nous sommes toujours ensemble sur Médien. Bienvenue à tous. Nous sommes ensemble également sur Médien.com et notre application Médien Radio. Tous les entretiens de cette matinée sont à réécouter sur Médien.com. Aujourd'hui, on parle également de schizophrénie. On fait un zoom sur ce trouble mental dit sévère et chronique, un trouble qui affecte autant la pensée que les émotions et les sentiments. Et pour en parler, toujours fidèle à son rendez-vous, notre docteur en psychiatrie, spécialiste donc en psychiatrie, docteur Othmane Lorabi, bonjour.
Bonjour et ravi d'être avec vous sur les ondes de Média.
Merci beaucoup à vous. Alors d'abord, comment peut-on définir la schizophrénie ?
Alors, la schizophrénie appartient la grande famille des troubles psychotiques. Alors les troubles psychotiques, très grossièrement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la personne qui en souffre va à un certain moment perdre pied ou perdre le contact avec la réalité réelle. Et de telle sorte qu'il y a des... ces maladies, les troubles psychotiques vont entraîner une altération de la perception de l'environnement, une altération de l'interprétation des comportements, et même l'altération des relations interpersonnelles. Ça, c'est la grande famille des troubles psychotiques. Quand on parle de schizophrénie, vous l'avez très très bien noté dans votre introduction, on parle d'une maladie chronique, c'est-à-dire elle est chronique, mais en plus, elle évolue, si vous voulez, d'un seul tenant. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de parler de maladie chronique qui va donner lieu à des crises, comme on a pu en parler à propos du trouble bipolaire, mais là, on est en train de parler d'un état pathologique qui, s'il n'est pas traité, va continuer à s'aggraver. Concrètement, quand on parle de schizophrénie, il y a une définition, encore une fois, bien critérielle, mais grosso modo, je vais simplifier pour dire que la schizophrénie, donc, c'est une maladie qui va se manifester par, d'abord, une rupture avec le fonctionnement antérieur de la personne. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire que on voit qu'il y a une grande différence par rapport à il y a quelques semaines ou quelques mois. Deuxième chose, c'est qu'elle nécessite la présence de manière chronique, c'est-à-dire plus que quelques mois, d'hallucinations. Les hallucinations, ce sont ce qu'on appelle les perceptions sans objet. Ce sont les choses qu'on est les seuls à voir, qu'on est les seuls à entendre, qu'on est les seuls à sentir. Je parle en termes d'odorat ou qui nous touche. Donc, il peut y avoir des hallucinations au niveau de tous les modes. Et il y a ce qu'on appelle, avec ces hallucinations, une construction délirante, c'est-à-dire une conviction absolument irréelle à propos de... ça peut intéresser plusieurs sujets, mais le sujet redondant, c'est l'impression d'être persécuté, l'impression d'être suivi, que les personnes nous veulent du mal, que les personnes parlent dans notre dos, etc. Donc ça, c'est le délire. Et avec cela, il y a ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va voir qu'il y a une régression dans le fonctionnement social de la personne et dans le fonctionnement quotidien. Et c'est là qu'on va avoir des dimensions qui sont plus en rapport avec le fait de devenir de plus en plus isolé, le fait d'avoir des routines extrêmement présentes, c'est-à-dire des gens qui ont exactement les mêmes journées. Il n'y a pas l'expression de la volonté pour faire d'autres choses, pour rencontrer d'autres personnes, d'autres pairs, et sans qu'il n'y ait de tristesse, parce qu'il faut bien différencier ça, des éléments qui peuvent s'apparenter à la dépression. D'accord. Et ces éléments-là, donc, on convient bien que quand il y a ces éléments-là, le comportement de la personne va être très fortement altéré. Il peut y avoir de l'agitation, il peut y avoir une agitation qui va être sous-tendue par une peur intense de ce qu'on croit qui est en train de nous arriver, comme quoi on est en train d'être suivi ou qu'on est possédé par des démons. Enfin, ça, c'est les thématiques qui reviennent souvent. Et cette définition, elle permet aussi de remettre les choses un peu dans leur cadre et peut-être d'arrêter de parler de schizophrénie quand on a quelqu'un en face de nous qui est juste ambivalent, qui dit un truc et son contraire, ou quelqu'un qui est un petit peu, je dirais, un peu lunatique, ce genre de choses. La schizophrénie, c'est absolument pas un dédoublement de la personnalité. Ça, c'est souvent l'image qui peut être relayée dans certains films, dans certaines séries, etc. C'est pas un dédoublement de la personnalité. Il n'y a pas deux personnes qui coexistent absolument, enfin, ou deux personnalités, mais bel et bien une personne qui souffre et qui peut se retrouver éventuellement à avoir des monologues, ce qu'on appelle des monologues hallucinatoires, c'est-à-dire à parler toute seule de l'extérieur, c'est ce qu'on voit, mais c'est des monologues avec les hallucinations qu'on a, hein, surtout quand ce sont des hallucinations auditives, acoustico-verbales, c'est-à-dire qu'on entend des phrases, des mots, des invectives, des injures, ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est la schizophrénie. C'est une maladie qui touche 1% de la population, dans le monde entier, sauf quelques exceptions ou quelques bizarreries statistiques dans des endroits isolés et probablement du fait de la consanguinité. Hein, je parle des pays baltes, chez les Mormons aux États-Unis. Enfin, il y a des études qui ont bien cherché tout ça. Et donc, 1% de la population et surtout, c'est une maladie qui nécessite une prise en charge rapide, d'autant plus qu'elle intervient volontiers chez les jeunes hommes. Hein. Assez classiquement, les hommes de 15 à 25 ans, c'est la population la plus impactée par la schizophrénie dans des formes graves. Alors bien sûr, la schizophrénie existe à d'autres âges, elle peut se déclarer à d'autres âges. C'est assez fréquemment, on retrouve assez fréquemment la notion de schizophrénie à début tardif, plutôt chez les femmes, jusqu'à l'âge de 35 ans, et pour certaines formes, à l'âge de 50 ans, ça peut se déclarer. Hein, et les principes de traitement, enfin les principes de prise en charge restent les mêmes, qu'on soit homme ou femme, c'est juste pour ne pas faire de distinction. Il y a une distinction qui est vraiment statistique en termes de l'âge d'apparition et en termes de sévérité. Hein, c'est la seule distinction qu'il convient de faire en fonction du genre.
Est-ce qu'on peut parler de facteurs de risque ?
Absolument, absolument. La schizophrénie est une maladie qui peut avoir une très 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 forte composante familiale sous-tendue par des éléments biologiques et génétiques. Hein. Donc l'un des premiers facteurs de risque qu'on retrouve, c'est le fait d'avoir des antécédents familiaux de schizophrénie chez les ascendants, chez la fratrie, etc. Ça, c'est le premier facteur de risque. Les autres facteurs de risque, ce sont les traumatismes de l'enfance. Hein, c'est-à-dire qu'un enfant qui va être peut-être, qui va vivre un abandon de la part de ses parents ou le décès d'un parent ou des violences répétées, ce genre de choses. On sait aujourd'hui que statistiquement, les enfants qui ont souffert, enfin, les personnes qui ont souffert pendant leur enfance de traumatismes répétés et d'abus vont développer plus volontiers des troubles qui s'apparentent à la schizophrénie. Autre chose qui est très importante et qui est peut-être d'actualité, c'est un autre facteur de risque très connu, c'est la consommation de cannabis chez les jeunes surtout. Et quand j'entends parler jeunes, vous savez, quand on va parler de santé mentale, les jeunes, c'est les personnes de moins de 25 ans. Donc, voilà, donc c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une consommation de cannabis avant l'âge de 25 ans, et surtout, c'est beaucoup plus précoce. Des fois, on trouve des consommations à l'âge de 14 ans ou de 15 ans. Et ben c'est totalement corrélé au risque d'apparition d'une vraie pathologie, d'une schizophrénie, donc un peu plus tard, ou même quelquefois, ça peut, la consommation de drogue peut déclencher, enfin, peut faire entrer la personne dans la maladie. Les autres facteurs de risque ne sont pas réellement reconnus. Hein. Il y a des choses... On discute plutôt de facteurs de mauvais pronostic, parce que quand on parle de la maladie, ok, il y a des facteurs de risque, mais il convient aussi de garder en tête qu'il y a autant de formes de schizophrénie, entre guillemets, que de gens atteints de schizophrénie, dans le sens où la schizophrénie, dans sa forme classique, oui, c'est une maladie chronique préoccupante, mais il peut y avoir des formes qui sont beaucoup plus légères que des dépressions très graves, par exemple, et qui vont beaucoup moins impacter la vie de la personne, hein, la vie, ses études, son travail, sa vie familiale, etc. Hein, donc il y a aussi cette notion de sévérité hein, qu'il convient de pondérer en fonction, bien sûr, des présentations cliniques, c'est-à-dire des symptômes que peuvent rapporter les personnes et de leur intensité, et aussi de la réponse à un traitement adapté.
Alors, en termes de diagnostic, comment ça se passe, docteur Lorabi ?
Je dirais qu'il est assez souvent, en tant que psychiatre, c'est une maladie qui est souvent aisée à diagnostiquer quand elle est bruyante, c'est-à-dire quand il y a tous les éléments dont on a parlé, à savoir quand il y a des délires et des hallucinations, parce qu'en général, c'est l'entourage familial qui va requérir les soins pour la personne qui est atteinte. Et pourquoi c'est la famille? Parce que, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, on n'est pas conscient qu'on est en train de tomber malade ou qu'on est en plein épisode délirant. Hein. C'est très rare qu'on soit conscient, mais en termes de schizophrénie, si on parle de la schizophrénie, je dirais que la règle, c'est que la personne qui est atteinte n'a absolument pas conscience du fait d'être malade, car elle croit à la totalité de ce qui se passe dans sa tête, hein, très schématiquement.
D'accord. Elle n'est pas consciente ou est-ce qu'elle ne veut pas se l'avouer, tout
non.
simplement?
Non, absolument pas. D'accord. Elle n'en est pas consciente.
D'accord.
Elle n'en est pas consciente. C'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la manipulation. C'est quand on parle de délire, c'est vraiment la personne est convaincue
D'accord.
de ce qui se passe dans sa tête, du fait d'être suivie, ce genre de choses. Et donc quand on lui dit tu es malade, etc., la personne peut même nous intégrer dans son délire, dans l'histoire qui se passe dans sa tête.
Ouais.
Hein. Là où le diagnostic devient un peu plus compliqué, c'est quand on a des formes ce qu'on appelle déficitaire, entre guillemets, c'est-à-dire ce sont des formes où on n'aura pas le délire et les hallucinations au premier plan. Mais on va avoir assez classiquement un jeune, par exemple, un jeune adolescent qui, petit à petit, ne sort plus voir les copains, reste enfermé chez lui, petit à petit, ne veut plus aller à l'école. Et bien évidemment, longtemps avant, on voit que les notes ont dégringolé. Et puis la personne qui présente tout ça n'exprime aucune souffrance relative au fait d'avoir ces détériorations et cette paupérisation des routines quotidiennes. Et c'est là où il y a une vraie difficulté diagnostique, parce que déjà, l'entourage a du mal à repérer que c'est une maladie. Souvent, dans notre contexte, on se dit, je vais utiliser un terme de délire, c'est du fchouche, c'est de la paresse, c'est du manque d'intérêt, etc. Alors qu'en fait, très 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 souvent, surtout quand on a des choses comme ça qui durent des mois et des années avec un impact très négatif, très péjoratif sur la scolarité avec des abandons scolaires, etc., eh ben on retrouve les éléments qui permettent de porter le diagnostic d'une certaine forme de schizophrénie.
Parfait. Alors en termes de traitement cette fois-ci, comment ça se passe, docteur Lorabi?
Alors, le traitement, le pilier, les piliers du traitement, c'est d'abord, je dirais pas d'abord parce que je dirais que c'est juste au même niveau, il y a les médicaments, c'est très important.
Oui.
Comme je le disais tout à l'heure, c'est une maladie qui a une forte composante biologique, donc ce qui permet de un peu maîtriser ou de contrôler
oui.
notre biologie ou d'influencer au moins notre biologie, c'est les médicaments.
Oui.
Et là, on est en train de parler, quand on parle de médicaments, on parle d'un traitement au très 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 long cours qui doit être absolument suivi avec toutes les précautions d'usage, les visites médicales régulières, certaines analyses qui sont faites pour justement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet indésirable biologique, notamment sur le plan métabolique, les hyperglycémies, l'augmentation du cholestérol, etc. Donc il y a ce grand pan qui est les médicaments, une classe de médicaments qui s'appelle les antipsychotiques. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse, parce que cette classe de médicaments a un peu mauvaise presse, parce que on a tous en tête l'image des personnes qui sont sous médicaments et qui sont figées, qui sont rigides, qui n'expriment rien, qui sont amorphes. Il faut vraiment avoir en tête que tout ça, c'est révolu. Hein. Ces médicaments-là sont anciens, ils datent d'il y a 40-50 ans, et il y a eu toute une flopée de nouvelles molécules qui permettent un contrôle beaucoup plus satisfaisant de la maladie, avec, je dirais, un réel potentiel pour reprendre une vie normale, tant qu'on est sous traitement, un peu comme à la manière d'un diabète ou d'une hypertension artérielle, et avec des médicaments qui, au final, n'ont pas autant d'effets indésirables que ceux qui sont présents dans notre mémoire collective. Hein. Donc, ça, d'un côté. La deuxième des choses, quand je parlais de médicaments comme étant le premier pan du traitement, un autre pan du traitement va s'intéresser à pallier aux petites déficiences ou aux petites difficultés qui commencent à apparaître. Quand je parle de difficultés ou de déficiences, je parle de problèmes, de difficultés à prendre les initiatives, je parle de difficultés à aller vers autrui, je parle de difficultés à quelquefois, notamment quand la maladie est trop évoluée, à effectuer les tâches de la vie quotidienne, sortir, faire ses courses, ce genre de choses. Ça passe par des prises en charge spécifiques qui sont de l'ordre de la psychothérapie, mais qui sont aussi de l'ordre de ce qu'on appelle la remédiation cognitive, c'est-à-dire que grâce à des appareils, des ordinateurs, etc., la personne, elle va s'entraîner petit à petit remobiliser ses capacités intellectuelles en vue d'accomplir une tâche qui est le plus souvent problématique et qui s'intègre dans les tâches de la vie courante. Et c'est comme une espèce de rééducation un peu mentale et ça donne de très bons résultats. Et le tout, bien sûr, avec un suivi médical et un accompagnement psychologique, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la personne n'est pas consciente qu'elle est malade, qu'elle a un délire, etc. Ça, c'est surtout vrai pour le premier épisode. Enfin, mais une fois que la personne répond bien au traitement et qu'elle retrouve ses capacités de discernement, et ben, le plus souvent, c'est quand même quelque chose qui est vécu de manière très péjorative, de telle sorte qu'on peut avoir des gens qui dépriment après être sortis d'une rechute ou d'un premier épisode délirant qui s'intègre dans une schizophrénie. On peut avoir une authentique dépression qui va être liée au fait de se rendre compte qu'on a une maladie à forte consonance péjorative. Moi, c'est plutôt comme ça que je le dis, parce que quand c'est traité suffisamment tôt et suffisamment bien, je le dis, on peut mener une vie quasi, mais vraiment à 99% normal. Donc c'est toutes ces considérations qui vont rendre nécessaire un accompagnement de la personne, mais aussi de sa famille.
On parle de famille, de cet entourage. Comment peut-il aider, finalement?
L'entourage aide toujours en lançant l'alerte, en étant peut-être les interlocuteurs privilégiés quand il y a notamment des rechutes, etc. Ça, c'est clair et net. Mais la famille, c'est surtout une entité qui souffre de la maladie du membre qui est atteint de schizophrénie. Et justement, ce qui a donné le plus de résultats, je dirais, pas forcément en termes de prise en charge de la personne malade de schizophrénie, atteinte de schizophrénie, mais de prise en charge et d'accompagnement des familles qui accompagnent ces malades, ce sont des associations. Ce sont des associations de parents, de personnes atteintes de troubles psychotiques ou de schizophrénie, qui vont s'organiser et qui permettent effectivement justement le fait d'avoir des pères, d'avoir ces pères qui vivent ou qui ont vécu la même chose et qui nous donnent des vrais conseils, quelquefois pragmatiques, qui peuvent être là pour nous aussi de manière logistique, qui peuvent aussi bénéficier d'un réseau, je dirais, d'intervenants pour répondre à des urgences ou à des besoins spécifiques. Il est clair que ces associations, elles font un boulot formidable. Donc, elles aussi, elles sont extrêmement impliquées dans la prise en charge, mais côté famille, comme je vous disais.
Effectivement. Alors, on parlait de maladie chronique. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'on est dit donc schizophrène, est-ce que cela veut dire qu'on le reste à vie?
A priori, si le diagnostic est le bon, oui, on est atteint. Moi, je préfère pas dire de quelqu'un qui est schizophrène, mais on est atteint de schizophrénie.
D'accord.
Oui, c'est une maladie qui est là, qui évolue à bas bruit quand elle n'est pas traitée. Quand elle est traitée, elle n'est plus là. Entendons-nous bien, vraiment, elle n'est plus là, la personne ne sent absolument plus aucun symptôme quand il y a une bonne réponse, quand c'est traité suffisamment tôt, etc. Et le problème qui se passe, c'est que justement, si on arrête le traitement, on se sent faussement en confiance parce que probablement les premières semaines, il n'y a absolument aucun symptôme qui revient. Donc on se dit, je suis désolé, je vais vous donner un stéréotype, on se dit, ah oui, le médecin s'est trompé, il n'y a pas de schizophrénie, etc. Mais après, la rechute, malheureusement, elle arrive, elle peut arriver très bruyamment et très brutalement, tout comme elle peut se réinstaller de manière très progressive et très insidieuse.
Comment peut-on conseiller, donc, Quels seraient vos conseils, vous, en tant que psychiatre, docteur Atmal Lorabi, à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui s'identifient donc dans tout ce qu'on se dit?
La première des choses, ça, c'est pour nos enfants, nos adolescents, c'est la prévention par rapport aux consommations de cannabis, même si c'est une drogue qui commence à être un peu banalisée, entre guillemets, dans nos mœurs. Et il faut bien garder en tête que c'est le facteur de risque qu'on maîtrise le mieux. Hein, c'est à savoir, c'est le fait de consommer ou pas, hein, ce genre de substance. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, qui enfin, va vous paraître un peu d'un point de vue un peu trop médical, mais c'est absolument important, c'est qu'il ne faut pas traîner dans la prise en charge. Ça, c'est très important. On sait aujourd'hui dans toutes les études concernant la prise en charge thérapeutique de la schizophrénie que ce qui donne le plus mauvais pronostic, c'est quand il y a une longue durée de maladie non traitée. C'est-à-dire que la personne commence à avoir des symptômes et puis ne consulte qu'après 2 ou 3 ans. Hein, ça, ce sont des choses malheureusement qu'on voit encore aujourd'hui. Et il est clair que pour une maladie comme ça, enfin, sur le plan cérébral, il y a des dommages, hein, qui se font quand il y a ces symptômes-là et qui ne sont pas traités. On peut imaginer qu'après 3 ans ou 4 ans, ou quelquefois même c'est une dizaine d'années, hein, où la personne consulte pour la première fois, bah là, c'est vrai que les options thérapeutiques, même en termes de pronostic, bah, ça ne peut pas être aussi bien que quand c'est quelque chose qui vient de se déclencher et qu'on a pris en charge de manière très précoce. Donc, j'insiste, et je me permets d'insister
Oui.
sur la prise en charge précoce au moindre doute. Ça, c'est primordial.
Merci beaucoup, docteur
Merci
Othmane
à vous.
Lorabi, d'avoir répondu à toutes nos questions.
Tout
Merci
le
à
plaisir est
vous.
pour moi.
Et c'est un entretien bien évidemment réécoutable. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce sujet et tous les autres sur medien.com.